cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi le pasteur Mohamed Sanogo et l'église Vase d'Honneur vous convient. Par le biais de ce message, laissez votre esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu.
Alléluia. Seigneur, parle, nous écoutons. Nous avons besoin de tes instructions. Nous avons besoin de ton conseil. Nous avons besoin de ce que tu veux nous dire. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Nous avons besoin d'entendre ta voix, Jésus. Jésus, parle, nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre. Saint-Esprit, prends le contrôle total de ce lieu. Que toute forteresse, tout raisonnement qui s'élève contre ta parole soit brisé dans les mentalités, dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Cet esprit renouvelle nos mentalités, renouvelle nos pensées, renouvelle notre façon de voir, renouvelle notre manière de comprendre. Je lève ma main par la puissance de ton autorité, Seigneur Dieu, par ton nom puissant, et je me dresse contre tout esprit méchant, contre toute œuvre de l'enfer, et je le repousse loin de ce lieu, je le repousse de toute pensée, de toute mentalité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de ton esprit consume ce qui n'est pas de toi. Les œuvres de l'enfer sont consumées par la puissance de ton nom. Seigneur, change nos cœurs, change les mentalités, change notre manière de comprendre. Béni sois-tu, Dieu vivant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. On va toucher notre sujet. Nous sommes toujours dans la famille, le foyer, le couple. Alléluia. Et selon le thème que nous avons à l'arrière, réussir mon mariage, une priorité pour ma destinée. Dis avec moi, réussir mon mariage, une priorité pour ma destinée. Alléluia. Alors tu as une destination, tu as un but, tu pars quelque part dans la vie. Amen. Et ton mariage est un élément important dans l'atteinte de ses objectifs. Amen. Amen, amen. On dit ceci en un peu début, nous avons commencé ce message, que nous allons dans un premier temps poser les fondamentaux, les bases. C'est dans cela que nous sommes. Un des premiers points fondamentaux que nous avons touché, c'est la notion de la réussite même. Amen. On dit réussir est une notion qu'il faut saisir, qu'il faut comprendre. Parce que si vous ne donnez pas la bonne définition au mot réussir, vous n'allez pas réussir. Parce que vous ne savez pas ce à quoi vous vous attendez quand vous parlez de réussite. Alléluia. La réussite varie en fonction des objectifs qu'on se fixe. Amen. Amen, amen. Donc, il faut avoir, c'est un des premiers éléments, il faut avoir une vision précise de ce que vous voulez voir dans votre foyer. Quand vous voulez dire « mon mariage est réussi », de quoi parlez-vous? Quand vous voulez que votre mariage atteigne certaines choses, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous voulez atteindre exactement? Vous devez définir. Et nous nous sommes rendus compte que beaucoup de couples, et beaucoup de couples en formation, beaucoup de personnes qui souhaitent se marier, n'ont pas un objectif plus ou moins précis de ce qu'ils veulent atteindre avec ce mariage. Les objectifs sont très limités. Et si vous avez des objectifs limités juste à la célébration des noces, juste aux festivités, vous allez connaître la désolation, la tristesse après le mariage parce que vous ne partiez nulle part. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide. Donc le conjoint vient pour t'aider. Amen. Mais si toi-même tu ne vas pas quelque part, comment est-ce qu'on peut t'aider? Imaginez-vous une personne qui veut prendre une voiture. Vous savez que vous convenez avec moi que la voiture vient pour nous aider, n'est-ce pas? La voiture nous aide à faire quoi? À nous déplacer plus rapidement. La voiture nous permet d'atteindre. Donc la voiture quelque part est une aide. Mais si toi qui montes dans la voiture, tu ne sais pas où tu vas, en quoi est-ce que la voiture va t'aider? C'est-à-dire tu montes dans la voiture, il paraît que tu viens m'aider dans la vie. La voiture te dit, bon, démarre, allons-y. Tu dis, mais tu viens m'aider. Et tu arrives dans la voiture, et tu vas tourner en rond, tu vas démarrer, tu tournes, tu vas finir ton carburant. C'est-à-dire tu ne sais pas où tu vas. On ne peut pas aider une personne qui ne sait pas où elle va dans la vie. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alors si tu sais que tu quittes telle zone pour aller dans telle zone et que la distance est si éloignée, alors la voiture vraiment vient t'aider. Mais la voiture ne peut pas t'aider si tu n'as pas une destination précise. Et si vous n'avez pas une destination pour votre mariage, si vous n'avez pas un but précis, le mariage ne sera pas pour vous une aide, mais le mariage sera pour vous un problème. Alléluia. Parce que si vous ne savez pas où partir, la voiture peut devenir pour vous un problème. Il faut payer le carburant, il faut la réparer, il faut aller chez les mécaniciens. Vous ne savez même pas pourquoi vous la réparez. Elle va finir votre argent sans être utile. Vous la mettez au garage, vous sortez, vous... En fait, vous ne savez même pas ce que vous allez en faire. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Et la réussite du mariage n'est pas définie par les hommes. Ce n'est pas à vous de définir comment votre mariage va réussir. C'est à Dieu de vous dire qu'est-ce qu'il attend du mariage. Parce que ce n'est pas vous qui avez créé le mariage, c'est Dieu qui a créé le mariage. Et Dieu a donné 3 choses pour réussir votre mariage. Dieu dit que ton mariage a atteint son but lorsque ton couple ou ton futur couple est devenu une bénédiction pour l'environnement. Amen. C'est-à-dire, Dieu vous met ensemble pour que d'autres personnes soient bénies au travers de vous. Donc, c'est un processus, mais vous devez savoir que vous êtes appelé à être une bénédiction pour autrui. Amen. Deuxièmement, votre mariage réussit lorsque votre conjoint et vous, vous avez fini par développer une très grande complicité. Vous allez, vous travaillez vraiment comme en équipe. Alléluia. Vous n'êtes pas seul. Tu n'es pas seul. Ton mari n'est pas seul. Vous vous sentez vraiment des amis. Vous vous sentez profondément complice. Un couple qui n'est pas ami, qui se fait des cachotteries, qui se cache, le monsieur se cache sa femme, la femme se cache du mari, n'a pas encore réussi. Même s'ils ne se disputent pas, même s'ils ne sont pas allés devant le juge pour divorcer, ils ne peuvent pas parler de réussite. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'un couple demeure en place qu'il a réussi. Ce n'est pas parce qu'un couple ne va pas voir le juge pour le divorce que le couple a réussi. Le couple réussit lorsque les personnes sont complices. Le couple réussit lorsque, la troisième chose, lorsque les personnes arrivent à devenir un. Amen. Arrivent à devenir un. Alors ces 3 notions-là sont celles-là que nous visons. Parce que nous voulons que notre couple réussisse. Quand nous disons donc réussis mon couple, mon mariage, une priorité pour ma destinée, voici les 3 choses que nous sommes en train d'atteindre. Amen. Nous voulons réussir. Nous voulons que notre foyer atteigne ce but. Nous voulons que notre conjoint et nous soyons complices. Et réussir cela, atteindre cet objectif-là, ne commence pas pendant la vie maritale, mais elle se prépare avant le mariage. Maintenant, et c'est ce dont nous parlerons aujourd'hui, s'il se trouve que je n'y avais pas pensé avant de me marier, il y a ce que le Seigneur appelle le rachat du temps. Dis avec moi, racheter le temps. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous allons toucher concrètement ce que j'appelle, nous allons entrer dans le bloc des sujets des saisons du mariage. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, amen, amen. Alors, je vous invite à relire le texte qui est notre squelette, qui est notre point focal, en fait, sur lequel nous nous inspirons pour traiter ce sujet de réussir le couple. Le premier miracle de Jésus en Jean le chapitre 2. Aujourd'hui, je vais le relire entièrement. Il a dit 3 jours après, Jean chapitre 2 verset 1. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Verset 11, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Voilà donc le merveilleux texte de la parole qui nous parle du tout premier miracle de Jésus. Et comme nous l'avons souvent l'habitude de le dire, j'ai l'habitude de le dire, le premier miracle de Jésus a été destiné à des noces. Les noces sont la symbolique de la famille, du mariage, de l'union entre l'homme et la femme. Amen. Donc, nous avons démontré, nous avons vu clairement que le premier miracle de Jésus est une révélation. Ce n'est pas un simple acte de produire du vin, comme ceux qui veulent s'enivrer s'inspirer de ce passage pour dire même Jésus a fait le vin. Il ne s'agissait pas ici d'énivrer les personnes. Nous savons que le vin, nous avons vu dans la parole de Dieu, le vin, c'est l'amour. Alléluia. Vous ne pouvez pas réussir votre mariage, c'est-à-dire atteindre les 3 objectifs que j'ai cités tantôt. Vous ne pouvez pas réussir s'il n'existe pas dans votre couple l'amour divin. Pas n'importe quel amour. Amen. Il y a un amour qui vous amène à vous marier qui peut être pour vous une séduction. C'est celui qui est symbolisé par le premier vin. Et c'est lui qui amène la plupart des foyers à se constituer. Ce type d'amour-là, le premier vin, finit toujours par manquer. Alléluia. Pour que vous puissiez atteindre les trois objectifs que j'ai donnés, pour devenir totalement complice de votre mari, pour que ton mari et toi, vous atteignez le but de votre existence, ça veut dire que votre couple devienne une bénédiction pour les autres, il faut que tu aimes ton mari de l'amour divin. Il faut que, femme, tu aimes, mari, tu aimes ton épouse de l'amour divin. Si tu utilises le premier vin, c'est-à-dire la première sorte d'amour, si c'est ce que tu utilises, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Alléluia. En chemin, tu vas baisser les bras. Ton couple va finir par devenir indifférent. L'un l'autre, vous serez indifférent dans votre relation. Il vous faut un type d'amour qui est miraculeux, qui vient du ciel. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire. Le but de ce message, c'est de le créer en vous. Amen. Alors, pour pouvoir le faire, Marie, notre thème du dimanche dernier, la première, qui était la première clé pour réussir le mariage, premièrement, il faut donner à Christ la position de Seigneur, réellement. Ceux qui n'étaient pas là, je vous en supplie, prenez les CD du dimanche dernier. C'est la première des choses. Si Jésus n'est pas Seigneur dans ton couple, si Jésus n'est qu'un simple invité, si Jésus est un simple visiteur, l'amour véritable ne viendra pas. Il ne sera jamais créé. Amen. Quelle que soit la situation conjugale que tu connais en ce moment, sache qu'elle n'est pas désespérée pour Dieu. Laisse-le faire le miracle. Alléluia. Alors, lorsque Marie a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, Jésus dit, quand je dis ils n'ont plus de vin, ça veut dire ils n'ont plus d'amour, ils s'aiment plus, ça veut dire ils n'ont plus de vin. Ils s'entendent plus, ils n'ont plus de vin. Ils ne se considèrent plus, ça veut dire ça, ils n'ont plus de vin. Le vin est venu à manquer. Ils se battent dans la maison, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus envie de sortir avec sa femme, ils n'ont plus de vin. Peut-être même qu'ils n'ont jamais eu envie de sortir ensemble même. C'est-à-dire, eux, c'est pas que le vin est venu à manquer. Le premier vin n'a même pas existé. Donc là, peut-être, Marie va dire à Jésus, ils n'ont jamais eu de vin. Alléluia. Elle vient dire à Jésus, c'est un mariage sans vin. En tout cas, le vin est venu à manquer. Peu importe si vous l'avez eu ou vous ne l'avez pas eu, mais en ce moment-là, il n'y en a pas. Alors Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Quelle est la considération que tu as pour moi? Alors, elle comprend. Elle dit, ah, c'est vrai. Là, je ne parle pas à mon fils, je parle au Seigneur. Et elle se retourne et dit, le boss est là. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Alors là, on commence là-dessus. Faites tout ce qu'il vous dira. Mes amis, pendant ce temps, Dieu va vous parler. Faites ce qu'il va vous dire. Si vous n'obéissez pas à la voix de Dieu, le vin ne viendra pas. Vous n'atteindrez pas pleinement votre destinée au travers du mariage. Votre mariage sera un problème. Alléluia. Il faut faire tout. Dis à un voisin, fais tout ce que Dieu va te dire. Et la première des choses que Jésus va demander, il va demander de changer de vase. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Il y avait les premiers vases qui contenaient le premier vin qui est venu à manquer, n'est-ce pas? Si il a dit que le vin est venu à manquer, cela signifie que les vases sont à nouveau vides. Donc il y avait des vases vides. Et Jésus vient, il dit, vous voulez du vin? Vous voulez mon vin? Écoutez-moi. Vous voyez ces autres vases qui sont là-bas, qui sont destinés à la purification des Juifs. La Bible dit qu'il a indiqué des vases qui étaient consacrés à la sanctification. C'est-à-dire des vases destinés à servir Dieu. Amen. Parce que à ce temps-là, bon, jusqu'à maintenant même, les Juifs dans leur religion, ils font des ablutions. Mais maintenant, nous savons que l'eau qui nous lave, c'est Jésus. Alléluia. Que tout ça, ce sont des images. Qu'il ne s'agit pas de se laver avec de l'eau physique pour croire que tu es purifié pour entrer dans la présence de Dieu. Il faut se laver avec le sang de l'agneau, le sang de Christ. Amen. Donc, c'était une image. Voilà, je fais cette parenthèse. Parce que quelqu'un va dire, ah, le pasteur a dit que si on veut se marier, il faut aller prendre des vases. Donc, tu vas aller en Israël, chercher des bouilloires d'ablution là. Venez te laver pour croire que le vin va venir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Jésus dit, changez de vase. La Bible présente les vases comme étant la mentalité. L'esprit d'une personne, le corps d'une personne. C'est la raison pour laquelle, c'est ce que nous appelons vase d'honneur. La Bible dit, dans une grande maison, il y a des vases vils. Ça veut dire, il y a des personnes qui sont vils. Il y a des chrétiens qui sont des vases d'honneur. Donc le vase, c'est toi. Le vase, c'est toi. Mais c'est ta manière de penser, ta manière de voir les choses. Pour que le second, pour que le vin, le véritable amour apparaisse dans le couple, Dieu ne va pas prendre ton ancienne façon de raisonner, ton ancien vase. Il est en train de t'expliquer que ton problème, c'est la manière dont tu as commencé même ton mariage. Tu essaies de rattraper une chose qu'on ne doit plus chercher à rattraper. Je n'ai pas dit de te séparer. J'ai dit de changer de mentalité. Amen. Alléluia. Parce qu'un homme, ce n'est pas l'enveloppe physique. Un homme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. La Bible dit que lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, lorsque Christ entre en nous, nous devenons de nouvelles personnes. Donc l'enveloppe physique n'a pas changé, mais la mentalité intérieure a été transformée. Alléluia. Il se trouve que, en ce qui concerne la notion du mariage, tu as une mentalité, tu as une éducation, tu as une formation, tu as l'expérience, tu as certains parents qui t'ont donné certains conseils. Toutes ces choses-là ont fini par forger en toi une idée, une mentalité, un vase. Et c'est cette manière de voir, c'est ce vase-là, c'est cette manière de concevoir, c'est dans cette manière de concevoir que tu as créé le premier vin, que tu es tombé amoureux ou bien que tu as décidé de te marier avec cette personne. C'est ta ancienne mentalité qui a fait que tu t'es marié avec cet homme sans même peut-être l'aimer. Il y a une mentalité, il y a un vase qui nous conduit à nous engager dans le mariage. Je vais encore aller plus loin. C'est la façon dont tu penses qui fait que jusqu'à présent, peut-être que tu n'es pas encore marié. Tu es en train de me dire, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas l'homme de ma vie? En fait, il y a un problème, il y a un vase qui pose problème. Seigneur, j'attends, je suis en train de passer l'âge du mariage. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu te demande, change de vase. Change de raisonnement. Change de manière de penser. Change de manière de voir. Lorsque Christ est venu donner son message de restauration, il disait ceci, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le mot repentance signifie quoi? Changer de mentalité. C'est le mot grec, métanoïa. Métanoïa, ça veut dire changer votre manière de penser. Donc, repentez-vous, ça ne veut pas dire seulement confessez vos péchés. Non, repentir, c'est change ta manière de voir le monde. Change ta conception. Touche quelqu'un, dis-lui, change, change. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que les résultats que tu as eus jusqu'à ce jour sont la résultante de ta manière de penser avant ce jour. Aujourd'hui, là, tu n'es que le résultat de ce que toi-même tu as semé. Ne te plains à personne. Tu dis, mais mon mari ne me respecte pas. Je t'assure que c'est toi qui l'as attiré comme ça. Tu dis, pasteur, change-le. Dieu dit, non, c'est toi, on va changer d'abord. Change ton vase. Tu dis, mais c'est son vase qu'on doit changer. C'est sa mentalité. Dieu ne change pas d'abord la mentalité de ton conjoint. Le problème, c'est comment tu fais même pour rencontrer ce conjoint. C'est ça qui est le problème. Tu pensais à quoi? Pourquoi tu as accepté de te marier? Je n'ai pas dit que ton conjoint a un problème. Mais je t'explique que si tu ne traites pas avec la base, tu ne pourras pas résoudre. Tu peux te dire aujourd'hui, bon, je vais me séparer de lui. Je vais aller, mais tu feras la même erreur. Tu constates quelque chose aujourd'hui, que ça ne va pas à la maison. Mais ça ne va pas parce qu'il y a des choses que tu as semées. Parce que tu avais une manière de penser. Tu constates que votre foyer, votre couple est bloqué dans son évolution. Mais il est bloqué dans son évolution à cause du vase, de la mentalité que tu avais. Dieu dit, change de vase. Vous savez, comme Jésus est Seigneur, les disciples ont obéi. Sans quoi, leur raisonnement aurait été, mais maître, tu veux faire du vin nouveau? Oui. Mais pourquoi tu vas prendre les vases sanctifiés là? Et les vases où il y avait le vin? Pourquoi tu ne les utilises pas? Si tu veux, on va les nettoyer et puis tu vas faire ton miracle. Il y a des vases qui ont été destinés au vin. Le vin est venu à manquer. Servons-nous du même récipient. On dit, Jésus, il n'y a plus de vin. Fais le vin. Il change de récipient. Au lieu de regarder les récipients vides, il dit, amenez les autres récipients. est le type de récipient que tu es par rapport à ce conjoint-là? Toi-même, tu reçois l'amour comment? Quel type de récipient tu es avant le mariage que tu attends? Quel type de récipient tu es? Tu es là, Seigneur, mon foyer ne va pas, mon couple ne va pas, je t'en supplie, viens au secours, je ne supporte plus. Et depuis là, il te parle, il change de vase. Mais le problème, c'est que, comme tu as raté la première clé, qui dit d'accepter, de recevoir Jésus comme Seigneur, de l'accepter Seigneur, tu n'écoutes pas ce qu'il dit. Il te dit, fais ça, toi tu veux lui expliquer pourquoi le premier vase est utile. Tu dis, viens, viens. Non, je comprends. Je sais que tu veux créer le vase, mais Seigneur, on ne fait pas la vie. Il dit, tu vois, le mariage, c'est une chose qui est très simple, Seigneur. Tu comprends? Pourquoi toi, tu vas aller prendre des vases destinés à la sanctification? Le mariage, prenons des choses simples, c'est naturel. Bien. Voilà. Allons-y, Seigneur. Regarde, avant, je l'aimais. Maintenant, je ne l'aime plus. Ce que je te demande, ranime en moi l'amour. Dieu ne veut pas ranimer d'abord. Parce que ranimer, c'est réchauffer ce qui a été éteint. Dieu change tout. Le deuxième vin, le vin de l'amour, n'est pas un réchauffé du premier. Alléluia. Seigneur, l'amour est en train de disparaître. Mon mari, je l'aime de moins en moins. Si tu l'aimes de moins en moins, c'est parce que ton récipient est mauvais. Tu dis, Seigneur, ranime en moi l'amour pour lui. Fais que je l'aime comme au premier jour. Dieu ne veut pas que tu l'aimes comme au premier jour. Parce que tel que tu l'aimais au premier jour, ce n'était pas bon. La façon dont tu l'aimais au premier jour, c'est un type d'amour qui était appelé à finir. Donc Dieu ne veut pas ranimer cela parce qu'il sait que s'il ranime, 3 ans plus tard, ça va disparaître encore. Les mêmes problèmes reviendront. Qu'est-ce que c'est le travail des conseils conjugaux? On fait juste du réchauffé. On vient dire, mais pourquoi vous ne vous entendez pas? Mon mari me parle mal. Il te parle mal. D'accord. Et toi, elle n'est pas soumise. Et puis on dit, femme, on lui explique avec les versets, sois soumise. Tout ça, on explique. Marie, il faut lui parler bien. Pendant un mois, le mari se concentre. Mais tu te concentres, mais tu n'as pas changé de vase. C'est ça le problème. Donc tu te concentres et pendant ce temps, tu es poli, tu es gentil. La femme aussi, elle fait un effort parce que le monsieur qui est venu vous parler, c'est un monsieur que vous considérez, c'est un monsieur que vous respectez. Il vous a donné des conseils. Le mari, ton mari s'est mis à genoux, t'a demandé pardon. Chérie, vraiment, je reconnais. Je t'ai frustré, je t'ai vexé. La femme rit à son mari, je reconnais mes erreurs, moi aussi. Dorénavant, je serai une épouse soumise, une épouse qui te comprend. Parce, écoute-moi, tu vas le comprendre 2 mois. Le 3e mois, tu ne vas plus le comprendre à nouveau. Monsieur, ce que tu dis non, maintenant je vais rentrer à 20h. Parce que le mec te dit, ta femme a besoin de toi, ton conseiller conjugal, ta femme a besoin de toi. Tu rentres toujours à 22h, même si on travaille. Dis à ton patron que tu vas rentrer tôt. Tu dis, hé, je te fais souffrir. Le mari dit, je te fais souffrir, je te demande pardon. Il va rentrer à 18h, à 20h, pendant 2 mois. Le 3e mois. Excuse-moi chérie, j'ai un petit retard aujourd'hui. Et ça va s'accumuler. Les mêmes problèmes reviendront parce que la racine n'a pas été changée. C'est le même vase, c'est la même mentalité. Jésus dit, prenez des nouveaux vases. Changez de mentalité, changez de façon de voir. On ne peut pas créer l'amour divin sur une mentalité, un raisonnement du mariage totalement humain. Alléluia. Donc le véritable amour n'est pas un réchauffé, il se crée, il est tout nouveau. Le premier vin avait pour origine, le premier amour avait pour origine la vigne. C'était du fruit des raisins, c'était le raisin qui a donné ce vin. Le miracle de Jésus, il a pris le vase et il y a mis de l'eau. Donc Jésus a créé du vin à partir de l'eau, pas à partir des raisins. Quelqu'un me comprend? L'amour dont parle le Seigneur arrive de manière illogique en fait. Ce n'est pas... je dis, c'est normal que le raisin produise du vin, mais c'est surnaturel que l'eau en produise. Et parce que Dieu nous amène dans une activation surnaturelle, il a besoin que nous le considérons vraiment comme Seigneur. Parce qu'il va nous demander de faire des choses qui sont un peu bizarres. Est-ce que vous me suivez? Le sujet que nous allons aborder, ce qu'il va vous demander n'est pas très logique, mais c'est ce qui va créer le vrai amour. Le premier vin, il vient du raisin. C'est-à-dire, c'est une image pour dire le type d'amour que tu as eu pour cette personne ou que tu vas avoir est très logique, dans le sens que vous êtes vus, vous êtes appréciés, vous avez pris le temps de cheminer ensemble, quand vous avez eu le coup de foudre, tout ça là c'est la logique. Ou bien vous êtes marié parce que vos parents vous ont contraint, tout ça c'est la logique traditionnelle. Tu t'es marié parce que franchement tu avais beaucoup de difficultés financières et l'homme était là, ça allait. Ou bien le monsieur cherchait l'argent, la femme travaillait. Tout ça sont des raisons logiques. C'est pas normal, mais c'est logique. Ça dit, la personne ne te parle pas, où je suis là. Ça va pas. La dame la veut me marier. Avec elle, j'aurai une maison. Bon, c'est pas spirituellement logique, mais c'est ton raisonnement. Ça dit, ton vase raisonne comme ça. Ta mentalité a un tel type de raisonnement. Et ça va donner un résultat mauvais. Mais par contre, la mentalité de Jésus est totalement différente. Où on s'attend à ce qu'il dise, allez acheter des raisins, je fais du vin, dis amenez de l'eau. Où on s'attend à ce qu'il utilise les anciens vases, il dit prenez des vases consacrés à Dieu. On se dit, mais le vin, pourquoi on met ça dans des vases consacrés à Dieu? Le vin là, c'est pour être ivre. Donc quelquefois, on trouve que le vin est trop charnel pour être dans des vases consacrés. C'est-à-dire, l'amour là. Les gens croient que l'amour est charnel. Aimer une femme là, c'est charnel. Moi, c'est ce que je croyais avant. Amener ma femme à dîner, à manger, je pensais que c'était trop charnel. Que le spirituel, c'est de gêner, de veiller, de prier avec elle. Vous voyez? On voit que l'amour, bon, c'est un truc qui n'est pas trop spirituel. Et que Dieu même s'en occupe pas trop. Lui, ce qui l'intéresse, c'est comment vous priez, comment vous gênez, qu'est-ce que vous faites à l'église. Jésus a changé leur mentalité. Il dit, allez prendre des vases consacrés à Dieu. Pour vous expliquer que le mariage, là, ce n'est pas une affaire naturelle, c'est une affaire divine, pleinement divine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Donnez-moi un bon amen vitaminé. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, fais ce que le Seigneur va te dire, c'est ça. Sois prêt à avoir des changements dans tes habitudes. Sois prêt à prendre certaines décisions, à poser certains actes qui vont t'aider. Et parmi ces actes-là, c'est jusqu'à présent, j'étais dans la fin du premier point. Alléluia. Ce que je viens de dire, j'introduis par rapport à l'ensemble de la deuxième clé. Amen. Il est important de remarquer la phrase que Jésus a dite juste avant que Marie ne fasse changer le statut de Jésus au sein de pendant ses noces. Donc, elle, Marie a fait passer Jésus du statut d'invité au statut de Seigneur. Amen. Mais c'est parce que Jésus lui a dit une phrase. Quand Marie est venue le voir pour lui dire, ils n'ont plus de vin, Jésus a répondu, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Dis avec moi, mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Jésus parle d'une heure. Dis avec moi, mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Il est important de comprendre que il y a un temps pour toute chose. Amen. Il y a des exigences que vous ne pouvez pas avoir de votre couple si le temps n'est pas encore arrivé. Des conditions doivent être réunies pour que certaines choses se produisent. Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Marie a agi. Et puis l'atmosphère s'est disposée et l'heure est subitement arrivée. Amen, amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Dis avec moi encore, le temps. L'heure de Dieu. L'heure de Dieu. Donc toutes ces trois clés que je vais faire dans la suite vont nous montrer qu'est-ce qui déclenche l'heure de Dieu. Donc Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Autrement dit, Dieu a une heure pour ton foyer. En fait, Dieu a une heure pour des moments dans ta vie. Dieu a une heure. Mon heure n'est pas arrivée. Et il faut comprendre cela. Alléluia. Il faut comprendre. Quelquefois, l'heure est là. Marie avait senti dans son esprit que le temps du ministère de Jésus devait commencer. La Bible dit, ce fut le premier miracle de Jésus. Verset 11, on dit, il a manifesté sa gloire et les disciples ont cru en lui. Donc, c'était son premier miracle. Marie a eu une attente de Jésus, comme je l'ai dit la dernière fois, pendant que Jésus n'avait jamais auparavant fait de miracle. S'il a dit que c'est son premier miracle, c'est qu'avant cela, il n'y avait eu aucun miracle. Comment Marie a senti que le temps arrivait pour que Jésus commence à faire des miracles? Cette sensibilité-là, vous devez la voir. Alléluia. Vous comprenez? La sensibilité des temps et des saisons. Vous devez la voir pour savoir appeler Christ de manière juste et précise en ce qui concerne le temps. Amen. Là, quand je parle comme ça, peut-être tu ne saisis pas bien. Mais on va aller. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Éphésiens 5, 16. Dit ceci. Éphésiens 5, 16. Dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On va comprendre pourquoi. Dis avec moi encore, le temps. Le temps. Voilà. On va étudier le temps des mariages. Quand je dis le temps du mariage, c'est même le temps du célibat. Dans un temps donné, dans un moment donné, certaines choses doivent être faites. Si tu ne les fais pas, au moment où elles auraient dû être faites, tu devras les racheter. Éphésiens 5, 16, qu'on vient de lire, dit ceci, rachetez le temps. Car, bon, les jours sont mauvais. Dans d'autres versions, c'est comme s'il dit, rachetez le temps, sinon des mauvais jours arrivent. Vous me suivez? Racheter le temps. Racheter le temps, ça signifie deux choses. Premièrement, ça signifie agir dans le temps. Mais ce que ça signifie encore, le plus profond, c'est que tu as perdu du temps. Déploie-toi à nouveau et va rattraper ces choses-là. Sans quoi, tu vas avoir de mauvais résultats. Touche un voisin, dit rachète le temps. Alléluia. Alléluia. Je veux dire, il y a des choses que tu vis parce que tu as fait des erreurs dans le passé. Il faut racheter le temps. Racheter le temps de manière plus simple. Il y a un temps, ou je dirais une saison de ma vie, où j'étais censé apprendre la grammaire, l'orthographe. Donc là, c'était une saison. Pendant la saison du primaire. Pendant cette saison-là, moi personnellement, j'ai eu un défaut. J'étais distrait en classe. Je n'ai pas très bien appris mes leçons de grammaire. Mais la vie avançait. Comme j'étais un peu bon en mathématiques et puis dans les matières naturelles, plus ou moins, la moyenne d'ensemble, j'ai avancé. Et j'arrive à un niveau où je dois rédiger des rapports, faire des documents. Mais si mon rapport apparaît devant le DG, il va avoir trop de fautes. J'ai le diplôme BTS comptable. Mais pendant la saison, je devais apprendre l'orthographe et la grammaire. J'ai manqué. Et ça me pose un problème aujourd'hui. Je peux même perdre mon travail à cause de cela. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Il faut racheter le temps. Racheter le temps, c'est-à-dire, tu dois t'asseoir à un moment donné, aller prendre les livres de ceux. Hein. Non, mais je vous assure, c'est une humilité qu'il faut avoir. Moi, je fais ça, je fais. Vous savez, j'étais bon en mathématiques, physique, mais j'ai raté, j'étais distrait dans les cours de français. Je n'aimais pas les français. En ce moment, si vous regardez mes appareils, j'ai des cours, je fais des dictées. Il y a la saison des dictées. Il y a la saison des dictées. Pendant le temps de la saison des dictées, je faisais plein de fautes. Mais je me rattrapais avec les maths. Je suis allé en classe supérieure. J'ai eu mon bac. J'ai eu mes diplômes. Mais j'ai raté un temps. Je dois racheter. Écoutez-moi, dans la vie de tout le monde, il y a des choses qu'on manque dans nos saisons précédentes. Et si je ne rachète pas le temps, les jours qui vont venir, les temps qui viennent seront mauvais. Par exemple, en ce moment, je dois rédiger des livres, ça sera un handicap pour moi. Je dois racheter le temps. Il faut avoir une mentalité de rachat du temps. Il ne faut pas dire c'est déjà passé, mon temps est fini. Non. Si tu ne rachètes pas le temps, il y a des choses que tu ne pourras pas atteindre. Si tu ne rachètes pas le temps, les jours qui viennent seront mauvais. Pour acheter le temps, il faut de l'humilité. Dans ton foyer aussi, il y a des choses que tu moissonnes aujourd'hui parce que tu as raté certaines saisons. Il y a des attitudes que tu aurais dû avoir à un moment donné que tu n'as pas eues. Et aujourd'hui, tu es marié. Rachète le temps. Dis à un voisin, bouscule, dis, rachète le temps. Non, il ne faut pas t'aider. Faut pas être là, tu dis, chérie, prends-moi comme ça. Dans la période où tu devais apprendre la douceur, faire la cuisine, t'occuper d'une maison, dans cette saison-là, tu avais la tête olé olé. Maintenant, tu te maries. Tu es marié. Tu sens que ton mari aime un repas précis. Mais il se trouve que dans la saison de cuisine, quand tu devais apprendre chez maman, tu étais avec tes copines. Mais tu vois que ton mari, il aime le placali fait d'une certaine façon. Et l'humilité de faire quoi? Racheter le temps. Parce que cette histoire de placali, cette histoire de repas, il aime ça tellement qu'il peut aller commander ça dehors. Alléluia. Il aime tellement le placali avec cette sauce, et comme il ne mange pas à la maison, et il se souvient que c'est sa mère qui le faisait. Tu es en train de te plaindre de la présence continue de ta belle-mère. Mais qu'est-ce qu'il va chercher chez sa maman? Alléluia. Et toi tu dis, il m'a épousé comme ça. Chacune a son don sur la terre. Moi, la cuisine, c'est pas mon truc. C'est pas que c'est pas ton truc. En réalité, tu es une très grande cuisinière. En réalité, parce que je crois que si c'était cet homme-là que Dieu t'avait donné, si c'est cet homme que Dieu t'a donné, c'est que potentiellement, Dieu a mis la cuisine en toi. Mais, pendant la saison où tu devais apprendre, tu as fait autre chose en fait. Le problème, ce n'est pas que ce n'est pas ton don. Parce qu'un talent, c'est un talent. Il est là. Mais je peux ne pas l'utiliser. Je peux ne pas le travailler. Alléluia. Alors, quand je commence à constater, quelqu'un, est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut racheter le temps. Va voir ta belle-mère, la vieille. Comment tu fais ce repas? Explique-moi un peu. La maman va t'expliquer. Parce que ce n'est pas la maman qui lui donne. Quelqu'un doit lui donner. Et il aime un aloco fait d'une certaine façon. Toi, tu ne sais pas le faire. Et aujourd'hui, Dieu ne t'a pas encore donné suffisamment de moyens pour prendre un cuisinier qui sait le faire. Non, tu dois racheter le temps. Alléluia. Et cela aussi est vrai pour l'homme. Bref, c'est juste pour vous expliquer le principe du rachat du temps. C'est un élément qui est très important. Marie à rattraper le temps. Quand Jésus a dit mon heure n'est pas arrivée, elle a compris que, elle savait que le ministère de Jésus avait commencé. Jésus avait déjà des disciples. Mais il ne faisait aucun miracle encore. Elle dit, mais on est dans la saison. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il agisse? Elle a rattrapé, elle a racheté le temps. Il est le Seigneur. Vous continuez à le voir comme le charpentier? Non. Parce que avant sa naissance, Dieu m'a dit quelque chose de lui. Mais je l'ai pris, comme Dieu ne m'a plus rien dit après, pendant au moins 12 ans, je l'ai éduqué normalement. À un moment donné, j'ai fini par oublier que c'est le Seigneur. Alléluia. Elle a rattrapé. Lorsque Jésus demande de prendre un nouveau vase, en fait, les premiers vases là, les deuxièmes vases, sont ceux qu'on aurait dû logiquement utiliser depuis le début. Mais comme on n'avait pas donné la bonne considération, il a laissé les hommes faire ce qu'ils avaient à faire. Il faut vous disposer pour la suite de ce programme à racheter le temps. Amen, 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 amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Pourquoi? Ecclésias chapitre 3 verset 1 dit ceci. Il y a une saison pour tout. Il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Il y a un temps de naître, un temps de mourir, un temps de planter, un temps d'arracher ce qui est planté, un temps de tuer, un temps de guérir, un temps de démolir, un temps de bâtir, un temps de pleurer, un temps de rire, un temps de se lamenter, un temps de sauter de joie, un temps de jeter des pierres, un temps d'amasser des pierres, un temps d'embrasser, un temps de s'éloigner des embrassements, un temps de chercher, un temps de perdre, un temps de garder, un temps de jeter, un temps de déchirer, un temps de coudre, un temps de se taire, un temps de parler, un temps d'aimer, un temps de haïr, un temps de guerre, un temps de paix. Celui qui agit, quel profit a-t-il de ce à quoi il travaille? 10. J'ai vu l'occupation que Dieu a donnée aux fils des hommes pour s'y fatiguer. Amen. Et particulièrement le verset qui m'intéresse maintenant, le verset 11 de Ecclésiaste 3, dans la version d'Abi, même dans la Louis II, c'est mentionné. Est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran? Ecclésiaste 3, 11. Je veux qu'on le lise ensemble. 1, 2, 3. Depuis le commencement jusqu'à la fin, l'œuvre que Dieu a faite. Amen. Ce qui m'intéresse là, il a fait toute chose belle en son temps. Il a fait toute chose belle en son temps. Pour comprendre les saisons du mariage, il faut savoir comment Dieu fonctionne. Ce texte signifie, parce qu'il faut bien le comprendre, hein, il faut le saisir, que une chose atteint sa période de beauté au temps. Bon, une chose devient belle, pas autant que Dieu a décidé. C'est pas ce que le texte dit. Une chose devient belle en son temps, c'est-à-dire au temps où que Dieu a mis dans la chose. C'est-à-dire c'est le temps de la chose. Autrement dit, la mangue devient belle à son temps et la mangue devient mûre à un temps qui est déjà dans ses gènes. Je veux dire, Dieu ne dit pas aujourd'hui, mangue, devenez belle. Dans le noyau, il y a une période. La phrase est en train de dire, un enfant sort du ventre de sa mère en son temps. Dieu ne vient pas pour dire, maintenant tu vas accoucher. Dans les gènes de l'homme, il a mis que la grossesse dure 9 mois. Donc le temps est dans la chose. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, il y a le temps dans l'igname, il y a le temps dans le riz, il y a un temps dans le riz. Le riz a son temps. Et le riz donne son riz. Au temps du riz. Le riz prend combien de temps pour donner? 3 mois. Donc, dans le riz, il y a 3 mois inclus. Donc, le riz devient beau en son temps, dans ces 3 mois-là. Dans le bébé, il y a 9 mois. L'enfant atteint sa maturité, sa beauté, la façon dont il doit paraître. En son temps à lui. C'est ce que le texte dit. Dieu a fait toute chose belle dans le temps de la chose. Amen. Alléluia. Il y a un temps pour ton mariage de donner certains fruits. Amen. Comprends ça comme ça déjà. Que Dieu fait toute chose belle en son temps. Donc ce pronom, la leçon, n'est pas le temps de Dieu, mais c'est le temps de la chose. Dieu a fait toute chose belle au temps de la chose. Parce que dans chaque chose que Dieu a créée, Dieu a mis un temps. Amen. 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 Il y a un temps où ta beauté, là je parle à ceux qui ne sont pas encore mariés, la beauté qui attire pour le mariage arrive. Il y a une saison. Maintenant, durant cette saison-là, non, il y a toujours des personnes qui viennent. Oui. Quand la saison, vous rentrez dans la saison où vous devez rencontrer la personne, c'est une saison où beaucoup de gens vont vous parler. La saison là va finir. Quand la saison finit, les hommes ne vous voient plus. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut me comprendre? Ok. Ce n'est pas fini. Quand c'est comme ça, il faut faire quoi? Racheter. Il y a des choses qui permettent, qui permettent de rattraper cela. Quand la femme ou bien l'homme arrive dans sa saison de maturité, parce que Dieu a établi les choses, les saisons là, elles sont là, toutes choses en son temps. C'est déjà programmé. Elle va atteindre, elle rentre dans cette période, et puis c'est comme si un parfum que dégage la période, c'est une saison, ça peut durer 10 ans. C'est une saison de sa vie. Dans cette période-là, généralement, la femme est censée être malléable. Elle a une disposition intérieure qui lui permet de bâtir quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Elle est avec ses parents, c'est vrai, mais elle est réceptive à un nouvel environnement. Quand cette saison passe, c'est que la femme, parce que peut-être pour ses raisons d'études, parce qu'elle fait des études, à cause de son travail, elle est tellement focalisée sur ces choses-là, elle laisse passer la saison, elle finit par se former, par avoir des principes de vie, par avoir une certaine manière de voir le monde. Quand cette période-là arrive, vous avez des manières de voir le monde, mais vous êtes adaptable. C'est-à-dire, on peut vous... Vous êtes malléable. Mais quand la saison finit, vous ne devenez plus malléable. Vous avez des principes, vous avez votre manière de ranger votre maison, vous avez votre manière de gérer ceci, vous avez votre façon de gérer votre personnel, vous avez votre manière de faire le monde, de voir le monde. Quand vous vous mariez à cette période, il y aura masse. Parce que votre mari, vous voulez qu'il vous prenne comme ça. Le mari aussi, lui aussi, il a passé la saison où il est malléable. Donc tout le monde arrive. Ça dit, la dame, elle a déjà eu des nounous. Elle sait comment elle veut que sa maison soit rangée. Dans la saison, elle ne savait pas trop comment elle voulait que sa maison soit rangée. C'est plus ou moins une idée. C'est flou dans sa tête. C'est plus ou moins une idée. Elle sait que, bon, elle va ranger comme ça. Mais si son mari dit, au lieu de ranger la cuisine comme ça, tu rangeais comme ceci, elle est prête à changer. Mais lorsqu'elle a pris une manière de ranger sa cuisine, de ranger sa maison, pendant des années, pendant la saison où elle était malléable, elle a travaillé d'une certaine façon. Si après cela, elle se marie, il y aura masse. Le mari dit, moi je dors avec climatiseur. Moi je n'aime pas climatiseur. Voilà comment on fait la table. Lui aussi, il a sa manière de ranger les choses. Et en ce moment-là, soit vous ne mariez pas, donc vous allez voir des personnes qui vont perdurer dans le célibat, parce que lorsqu'elle prie, en fait, pour demander à Dieu, Seigneur, envoie l'homme de ma vie, ce que Dieu fait, en fait, il change de vase. Il a besoin que tu rachètes le temps pour déclencher le miracle, en fait. Maintenant, si toi-même, tu es tellement fatigué d'avoir attendu jusqu'à 50 ans et tu tiens absolument à te marier, il va avoir clash. Il vous sera très difficile d'avoir le vin d'amour. En tout cas, ça va pas. Si vous commencez à vous aimer, ça ne va pas durer. Parce que lui, il a sa façon de voir, toi, tu as ta façon de voir, et puis vous vous rencontrez. En ce moment-là, il vous faut racheter le temps. C'est-à-dire, il faut que le mari comprenne que, ah, chérie, là, à l'âge où on se marie, là, ce n'était pas la saison prévue. Hein. La saison du mariage, c'était avant. Donc, je sais que toi, tu veux que la chambre soit rangée comme ceci. Moi, je veux que la chambre soit rangée comme cela. Parce que ça fait 50 ans que je range ma chambre comme ça. Madame, je ne suis pas un enfant. La dame aussi te dit, je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas une enfant. Ok. Mais pour se marier, vous devez redevenir enfant. Pour vous marier, on se marie dans la période de la jeunesse. Vous devez redevenir jeune. Si vous n'acceptez pas de redevenir jeune, alléluia. Ce n'est pas que votre apparence physique va changer. Je vous ai dit, le vase, ce n'est pas ce qui est extérieur, c'est la mentalité. Il faut, à un moment donné, te remettre dans une autre mentalité. Si tu sens que Dieu va te donner maintenant de te marier, si tu sens que tu as passé la saison où tu étais marié, pour différentes raisons tu n'étais pas marié, peut-être tu as raison, peut-être tu as tort, peu importe, chacun a ses problèmes dans la vie. Mais une saison est une saison. Je vais dire, ce n'est pas parce que pendant la période de la saison où on sème le maïs, tu n'as pas semé, et puis tu es en retard, et puis tu viens, Dieu ne change pas les saisons. Je ne sais pas si vous comprenez. Et puis tu dis, hey, Seigneur, je voulais semer, mais en ce moment-là, j'étais malade. J'ai eu un gros palu. Donc, s'il te plaît, arrête la saison pour que... Ce n'est pas possible. Les saisons ne s'arrêtent pas. La Bible dit, aussi longtemps que la terre va exister, les saisons seront ici. Donc, c'est comme ça. Il faut en être conscient. Mais seulement, je suis conscient que je ne suis plus dans ma saison de jeunesse. Or, dans mon cœur, j'aspire encore au mariage. Ceux qui se marient sont jeunes. Il faut que Je rachète le temps. De même, ceux qui sont mariés, il y a des choses que vous aurez dû, acquérir dans votre jeunesse. Mais dans votre couple en ce moment, vous êtes bien sur beaucoup d'éléments. Les choses fonctionnent bien. Mais il y a des éléments qui auraient dû être mis en place avant. Il faut avoir l'humilité de reconnaître ces choses-là et puis de racheter le temps. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit c'est pas facile. C'est très facile. Bien voisin, c'est facile. Ça ne sera pas compliqué. Il y a quelqu'un qui dit, ah, parce que j'ai changé toutes mes habitudes. Vous voyez, c'est ce que je disais. Il y en a qui vont raisonner. Quand on va demander de changer de vase là, on dit, mais le premier vase, c'est lui qui porte le vin. Pourquoi tu veux qu'on change de vase? Il dit, ah, il n'y a pas le vin de gloire dans la même mentalité. C'est-à-dire, quelque chose va changer. Il faut qu'on change le fondement. Bien voisin, tu peux être encore heureux. Tu peux être encore heureuse dans le foyer. Tu peux réussir. Mais fais tout ce que le Seigneur va te dire. Sois prêt à changer de vase. Sois prêt à racheter le temps. Sois prêt. Mais c'est tellement important pour ta destinée que s'il te plaît, paye ce prix. Sans quoi les jours seront mauvais. Tu sais que tu vas loin et tu as besoin de l'aide de cette voiture, de quelqu'un qui va te propulser vers ce destin. Ne dis pas non, les hommes sont dit, je ne peux pas, c'est bon. Si tu sens que toi, tu n'es pas appelé à être seul, parce qu'il y en a qui sont appelés à être seuls, si tu sens cela, n'aie pas honte, mets-toi devant la face de Dieu, il va te dire le vase. Et la première instruction, je n'ai pas dit encore sur quoi il faut racheter le temps, j'ai donné un exemple pêle-mêle, j'ai prié comme cela. Voilà, n'allez pas dire, attendez d'abord avant d'appliquer. Hein? Voilà, attendez, je n'ai encore rien dit. Alléluia, j'ai expliqué le principe du rachat du temps. J'ai expliqué le principe de changer les vases. C'est tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on rachète? Qu'est-ce qu'on doit changer? Attendez, dimanche prochain. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, laisse ton mari pour le moment. Laisse ton épouse. Ton pasteur a dit, c'est un exemple. Je veux que tu comprennes le principe. Si tu comprends le principe, alors tu sauras adapter mon message à ta situation précise à toi. Parce que je ne peux pas citer toutes les situations. Il y en a des multiples. On a des histoires toutes différentes, mais les principes restent les mêmes. Si je retrouve le principe, je sais comment l'adapter à la situation que je vis dans mon foyer ou pour le foyer futur que je veux bâtir. Nous allons ensemble élever nos voix et prier le Seigneur pour ce que nous avons entendu. Que Dieu nous rende malléables. Tu vas prier pour que le Seigneur te rende malléable. Parce qu'il faut racheter un temps. Tu vas prier pour que le Seigneur te rende malléable. Même les couples qui fonctionne très bien en ce moment. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le premier vin finisse pour enclencher le processus du vin de Dieu. L'amour divin va en progressant. L'amour du monde, le premier vin, le premier amour, va pour stagner ou pour totalement disparaître. Si c'est ce que tu ressens en ce moment, même si tu aimes encore ton conjoint, sache simplement que tu fonctionnes avec le premier vin réchauffé. Mais Dieu veut bâtir quelque chose de nouveau avec toi. Seigneur, rends-nous malléables. Rends-nous malléables par ta parole. Rends-nous malléables. Brise l'orgueil de notre cœur. Brise l'endurcissement de notre cœur. Brise le raisonnement. Brise-nous. Et que nous arrêtons de dire, non, le temps est passé. Seigneur Dieu, nous ne comprenons pas. Papa, prends-nous, rachète le temps. Dans notre vie à tous, il y a des choses que nous manquons dans notre jeunesse. Mais il y a encore de l'espoir. Même si, madame, tu as plus de l'âge avec ton conjoint, il vous reste peut-être encore 5 ans, 6 ans, c'est pas grave, fais ce travail. Permets au reste d'années qui vous restent, que ce soit des années de gloire. Tu disais, si j'avais entendu ces choses-là il y a des années, je n'en serais pas à ce point. Mais Dieu a permis que tu entendes cela maintenant. Donc, ne sois pas en train de pleurer de manière nostalgique. Regarde le futur. Peut-être les 3, 4, les 5 prochaines années qui te restent seront les merveilleuse de ta vie, profites-en. N'aie pas une mentalité de fatalisme. Dieu a commencé à travailler avec Moïse à l'âge de 80 ans. Moïse pouvait dire non,
À l'âge de 40 ans, Dieu avait appelé Moïse. Moïse devait être utilisé par le Seigneur. Mais Moïse a raté sa saison. Moïse a dû faire un rachat après 40 ans d'erreur. Mais malgré cela, il fut un des plus grands hommes de Dieu que le monde ait connu. Abraham a pris beaucoup de retard. Le grand Abraham, qu'on appelle le père de la foi. Il aurait dû commencer son ministère, son action beaucoup plus tôt. Il a eu un retard qui lui a donné de commencer sa vie correctement à 75 ans. Mais il a cru encore en ce Dieu. Et les temps qu'il lui a resté de vivre, il les a vécus comme Dieu le souhaitait. Alors ne dis pas, c'est déjà gâté. Aie confiance en ton Dieu. Remets-toi seulement en ses mains. Et donne-lui de te donner le bon vin pour la fin. Le véritable amour, le bon vin, qui va te donner maintenant de réussir ton mariage, de réussir. Merci Seigneur pour ta grâce et vie. On peut se tenir debout, lever les mains vers le Seigneur. Surtout ceux qui se sentent concernés, qui veulent que Dieu fasse un travail dans leur cœur ce matin. Levez les mains. Seigneur, je prie afin que ton esprit vienne changer nos cœurs. Viens rendre nos cœurs malléables. Quelquefois, nos expériences, nos échecs ont fait de nous de telles victimes, Seigneur, que nous avons peur de changer. Quand on dit encore de nouvelles paroles, encore de nouvelles choses. J'ai tout essayé. Oh Dieu, je t'en supplie, que personne ne parle ici. Fais taire nos propres voix et que ta voix s'élève au-dessus de nos raisonnements. Que ta voix s'élève au-dessus de nos pensées. Et que tu viennes semer les semences de la vie en nous. Afin que cette chose excellente, extraordinaire que tu as créée en le mariage puisse se concrétiser dans nos vies. À toi la louange, à toi la gloire, à toi l'exaltation, c'est des siècles. Merci pour l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus.
Merci pour votre attention et réécoutez aussi souvent que possible ce message. Car la foi, pour accomplir des exploits, vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu, et la réécoute régulièrement. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants du pasteur Mohamed Sanogo, tels que la mentalité des vainqueurs, retrouver son identité, sont à votre entière disposition. Contactez-nous au 22 41 29 80 ou au 02 61 30 63 ou écrivez-nous à l'adresse mail suivante comprod@vasedonneur.org. Nous vous invitons également à visiter notre site www.collectiontransformation.com. Merci et à très bientôt.
Ayons un cœur humble pour entendre la voix de Dieu. Si nous avons nos propres pensées, nos propres idées, si nous ne sommes pas humbles, Dieu ne nous parlera pas. Oui, il nous parlera, mais nous n'entendrons pas. Et nous voulons nous abandonner. Seigneur, me voici.
Voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains.
Je veux voir tes désirs. Se révéler à moi.
Je me livre
Je me livre, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains.
Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser.
Je me livre totalement. Je m'abandonne entre tes mains.
Je me livre totalement.
Je me livre.
Tu
propre conception, mon Dieu. Je t'appartiens, je t'appartiens, je prends le contrôle. Totalement, je me livre, je me livre, je me livre. Je m'abandonne, m'abandonne entre tes mains. Je me livre totalement. De toutes choses, 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 de toutes choses. Shandara da brodis claria da brodis claria da brodis claria da brodis da brodis claria da garala shandara da brodis. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Seigneur, c'est toi de nous. Seigneur, pose ta main sur nous. Seigneur, parle à ton peuple. Nous avons soif de toi. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos fardeaux, tu connais nos challenges, tu connais nos défis, tu connais toutes choses. Brianna Brodus, Carabara, la Brivera, la Sourouvara, la Brivera, la Charababa, Raide Brianna Bradis, Kourouvara, la Brivera, la Sourouvara, la Kéterebro, Raide Brianna Gara, la Charabara, la Brivera, la Sarabara, la Lindelebo. Oh, 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 oh. Brianna Brodus,
Nous voulons acclamer notre Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'acclamer, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'exaltation, Jésus. Sois élevé, roi de gloire. Disons à notre Seigneur qu'il soit loué, qu'il soit élevé. Prononçons, déclarons des paroles pour sa grandeur, sa puissance et sa force. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.